c'est Vincent de Toulouse. C'est pour une anecdote sur le sujet du jour. Il y a 3-4 ans, on est allé dans le Wyoming et nous sommes tombés complètement en admiration devant Devil's Tower, qui est évidemment la star ultime de Rencontre du Troisième Type. Et on a dormi au camping pendant deux nuits. Et en fait, tous les soirs au camping, il y a une télé en extérieur et il passe tous les soirs Rencontre du Troisième Type. Et il y a 20-30 personnes qui regardent. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Au revoir.
To be or not to be, not to be.
J'ai toujours rêvé d'être un hardeur.
Alors non, je ne parle évidemment pas de ces films où des réparateurs de photocopieuses ont la fâcheuse tendance d'enlever leurs vêtements dès qu'il y a un bourrage papier. Non, je parle des véritables fans de hard rock, ces tatoués avec des têtes de mort qui crachent des serpents, des mecs qui ont des bagues en forme de scorpion, ceux qui ont des cheveux longs qui arrivent mi-dos et qui doivent avoir un budget shampoing aux œufs de folie. J'aurais tellement aimé secouer ma crinière en écoutant un live de Sepultura ou d'Iron Maiden. Le problème, c'est que même si j'avais voulu, du temps où j'avais des cheveux, bien évidemment, hein, j'avais la coupe afro. Et vous pouvez secouer une coupe afro comme vous voulez, ça bouge pas. En plus, j'ai grandi dans une cité HLM où si tu voulais te fondre dans la masse, il fallait écouter du rap. Et ça, c'était la base. Secteur A, NTM, IAM. Alors je sais, ça fait cliché. Mais vous savez, 9 fois sur 10, on n'est pas aussi originaux qu'on se l'imagine. Si vous saviez dans les couloirs de France Inter le nombre de fans de Juliette Armanet ou d'Eddie Depreto que je croise avec un collier de barbe et les inrocs sous le bras, hein, on est tous des clichés. Du coup, adolescent, j'écoutais Metallica et Iron Maiden en cachette, dans mon radiocassette. Mais surtout, j'écoutais le groupe qui nous intéresse aujourd'hui, le groupe de hard le plus swag du monde, Asdes ACDC.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Le vent se lève sur 270 à 30 nœuds. Maintenez cap actuel à 15 000 pieds. Accès autorisé à la zone de parachutage.
ACDC, c'est un groupe de hard rock créé par des Écossais nés en Australie qui ont conquis le monde entier. C'est aussi une belle histoire familiale car ACDC, c'est l'histoire de deux frères, les frères Young, Malcolm et Angus, deux guitaristes de génie qui ont dû faire de la vie de leurs parents un enfer. Parce que sincèrement, quand tes gosses sont les créateurs du groupe ACDC, on va pas se mentir, t'es rarement invité à la fête des voisins. ACDC, c'est tout d'abord un chanteur, Bon Scott, à la voix très particulière. Imaginez une mère qui vous appelle par la fenêtre pour la 8e fois alors que le repas est prêt. Ça donne à peu près ça. Puis Brian Johnson, le chanteur ou Luke, tout l'amour, Béret et Marcel. Mais sur lui pourtant, ça faisait classe. Pour parler de ce groupe mythique, pour parler hard rock et pour parler métal, j'ai à mes côtés du cheveu au quilleux, il y a du cheveu de qualité, Philippe Panœuvre, tout d'abord, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors vous êtes journaliste, critique musicale, éditorialiste, vous êtes également animateur d'émissions de télévision, de radio, scénariste de bande dessinée, plein de choses.
Oui, j'ai fait tout ça.
Et même plus, hein, les salles de bain aussi, des trucs.
Et j'ai fait des émissions à France Inter à une époque aussi.
C'est un retour au Berkel.
Je m'en souviens, voilà, je suis très heureux, puisque c'était justement à cette époque-là, en 82, qu'on a commencé, donc c'est amusant d'être là aujourd'hui pour parler de ces mystérieuses musiques que sont le hard rock et le métal,
n'est-ce pas? À nos côtés également, Wax. Alors Wax, vous êtes multi-instrumentiste, c'est-à-dire que vous jouez plein d'instruments, vous avez co-animé le comité des reprises avec votre pote PV Nova, vous avez couvert le Hellfest à de nombreuses reprises avec votre émission, et vous avez une connaissance assez large du phénomène métal et du Hellfest.
On peut résumer ça comme ça.
Oui,
mais après, je pense avoir moins de connaissances que Philippe.
Et ça gagne bien, connaisseur du Hellfest.
Ça, c'est une bonne question. C'est vraiment la partie qui gagne le moins.
Écoutez, bon, moi j'ai eu une chance terrible. Je suis né en même temps que j'ai commencé à acheter des disques à 15 ans quand sortait le premier Led Zeppelin et le premier Black Sabbath, qui sont vraiment les deux disques qui ont fondé le hard rock. Et puis ensuite, dans les années 80, le hard rock s'est inspiré de l'énergie du punk. Et on a eu la New Wave of British Heavy Metal, ce qui était sympa puisque c'était des groupes allemands comme les Scorpions, des groupes français comme Trust, qui s'inspirait de l'énergie punk et qui la filtrait dans le hard rock et ça a donné le métal. Voilà, pour résumer grossièrement.
Mais
et le groupe AC/DC, il est charnière.
Mais
il
on va fait développer,
la liaison
on va développer
entre les anciens parce que, et les modernes.
Il me reste encore une personne à présenter.
Oui.
Dedo. Dedo, l'humoriste,
acteur
français, qui s'est fait connaître grâce au Jamel Comedy Club.
Mais pourquoi vous le présentez? Il est pas là.
Mais parce qu'il va arriver. Parce qu'en fait, voilà, il faut le dire, il est auteur de bande dessinée. Voilà, et il va venir logiquement, mais je me doutais un petit peu. Il est légèrement en retard, mais il va arriver.
Au cas où il viendrait pas, on aurait pu économiser la présentation, parce que nous, on est des fanatiques du hard rock et du métal, et on préfère pas parler des
absents. Oui, mais c'est un copain, après je vais lui donner des sous si jamais on parle pas de lui. Ensemble, on va bien évidemment parler d'AC/DC, de leur album indétrônable Back in Black, mais je vais pas vous mentir, c'est surtout un prétexte pour parler de hard et de métal. Parce que sans être un expert, hein, j'en ai pas la prétention, et j'en ai autour de moi, et heureusement, on va essayer de retracer l'historique du hard rock. Qu'est-ce qui le différencie du métal? Ses groupes cultes, ses codes? Pourquoi alors que les concerts font sale comble que l'Hellfest est un succès chaque année renouvelé, on continue de tomber dans les clichés pour parler du hard. Alors qu'on est face à une richesse musicale qui laisse pantois de par sa diversité, pourquoi s'arrête-t-on trop souvent à la forme? On est le 3 juillet, on est sur Inter dans Blockbuster et ce matin, on est Back in Black. Manœuvre, oui. Vous avez commencé à le faire avant cet extrait de Back in Black, d'AC/DC. Est-ce que vous pouvez nous retracer l'histoire du hard rock? D'où ça vient en fait?
Ça vient sans doute du rock psychédélique. Hein. Il y a un moment, je crois qu'il y a eu un âge d'or où tout le monde a un peu essayé tout. Et un jour, Jimmy Page, guitariste de Led Zeppelin, s'est branché sur des amplis Marshall avec une certaine guitare, Les Paul, et il a poussé ça à fond, il y a une espèce d'épiphanie, tout le monde a dit c'est merveilleux, et on appelait ça le hard rock, et il y a eu un véritable raz-de-marée de groupes qui sont partis dans tous les sens sur cette musique, des Black Sabbath, des Deep Purple, chacun inventant des choses. Black Sabbath a vraiment pousser encore les trouvailles de Led Zeppelin, grossit le riff. Mais ce qui est important, c'est que c'est des groupes qui arrivaient à passer à la radio. On entendait Paranoid à la radio, on entendait Deep Purple, Smoke on the Water. Vous voyez, il y avait des morceaux assez fondateurs. Il y avait des très bons morceaux, des groupes un peu glam, un peu hard, comme Sweet, passaient quand même très régulièrement sur toutes les antennes. Bon, il y avait 3 radios en France, hein, c'était pas non plus le Pérou.
Et comment on s'explique qu'à l'époque, il y avait finalement une plus grande ouverture qu'aujourd'hui?
Non, je crois que les gens faisaient des meilleures chansons. Il y avait vraiment. Non, mais il y avait des très jolies. Enfin, si vous réécoutez, je vais vous citer. Arrêtez de rire, mon ami. Je vais vous citer les chansons de Led Zeppelin, comme Communication Breakdown ou Lotta Love. All Your Lovin', c'est des trucs qui peuvent encore être écoutables aujourd'hui. On dit pas, mais c'est tragiquement vieux. C'est le son qui est resté, le son du hard rock qui semblait une poussée en 69. Aujourd'hui, c'est un peu le son normal pour tous les groupes de rock.
Moi, j'avais une question pour Philippe. Est-ce que tu penses pas qu'il y a eu un avant et un après Helter Skelter?
Ah, il y a aussi ce morceau. Alors après, mais nous, Helter Skelter, quand c'est sorti, on n'a pas dit c'est du hard rock. C'était un morceau du double blanc des Beatles. Où effectivement, il jouait un peu ce rock, mais ça a pas, c'est pas ça.
Il est quand même vachement heavy, quoi.
C'est un morceau très heavy, mais ça a pas déclenché les vocations.
Non, bien sûr.
Comme le premier Black Sabbath ou le premier Led Zeppelin, où là, c'était des disques fondamentaux, déclencheurs de vocations, parce que dans le double blanc, il y a toutes les formes de musique. Il y a même du ska, Obladi Oblada.
Ouais,
donc, alors que Led Zeppelin, bon, c'est le manuel, quoi. C'est le livre du mal. Tu le lis, tu connais tout. Les chapitres et tu pars là-dedans du blues, des improvisations, des prouesses guitaristiques. Mais c'est un monde d'artisans. C'est un monde d'artisans. À partir des années 80, bah, c'est une industrialisation de ces artisanats. Et on va voir arriver des règles simples, le New Wave of British Heavy Metal. C'est là où il y a Iron Maiden, Scorpion, Trust, tous les groupes qui qu'on connaît encore, qui sont encore aujourd'hui au sommet, Judas Priest, etc. Et tous ces groupes, ils vont forger littéralement une musique qui continue à avoir des moments qui passent à la radio, quoi. Il y a des trucs, hein.
Et la généalogie avec le blues?
Le blues est utilisé, alors le blues c'est la référence, quoi, vraiment. Mais c'est pas obligatoire. Vous avez des groupes un peu prog qui partent dans totalement autre chose. AC/DC, il y a une racine blues, bien sûr. Il y a des albums totalement bluesy. Et quand ils jamment avec les Stones, ils jouent Rock Me Baby. Et c'est magnifique. Il y a eu Angus Young est un des très très grands guitaristes électriques. Il y a peu de gens qui avaient joué de la guitare comme ça. Il y a eu des milliers de vocations déclenchées par les riffs de cet écossais né en Australie, de cet écossais australien. Voilà, et Angus Young, il y a aussi son frère derrière, il y a les frères d'AC/DC, les deux guitaristes, il y a quelque chose dans l'ADN, quoi. Il y en a un qui lâche pas, qui sarcle le truc, et l'autre qui fait les solos.
Alors, Dedo nous a rejoint.
Tout à fait. Ah,
bonjour, voilà. Dedo.
Bonjour. Alors, d'habitude, je vais en transport. Pour une fois, je prends un Uber. Je pense qu'il écoutait du hip-hop.
Voilà, tout de suite, on stigmatise le rap et tout ça. Voyons.
Oh, l'antagonisme a toujours été présent, mais ça reste très bon. Enfant.
Bon, alors, on parlera bien évidemment de l'actualité de Dedo, c'est-à-dire le groupe Princesse Leia. Mais on en parlera un peu plus tard, parce qu'il avait qu'à arriver à l'heure. Voilà. Ça s'est fait. Alors, maintenant, on va diffuser, parce qu'on est en train de parler d'AC/DC, et on va passer à un des grands classiques du groupe, alors qui n'est pas tiré de Back in Black, qui est tiré de Razor's Edge, parce que c'est mon émission, et je préfère Thunderstruck.
Sachez, il faut quand même dire que Back in Black, c'est l'album rock qui s'est le plus vendu.
Oui. Hein,
on dit il y a Thriller de Michael Jackson, mais on conviendra que c'est pas du rock, c'est autre chose, c'est la pop, c'est totalement
on est d'accord.
Pop. Et par contre, en album rock, bon an mal an, ça reste Back in Black, le leader.
Donc j'en profite pour vous dire en écoutant Thunderstruck, ce titre qui est sorti en 90 sur l'album Razor Edge, que cette émission a été préparée par Céline Hila à la réalisation, Marie Mougin et Chloé Brassière à la préparation de l'émission, aidée de Prudence Castello. La programmation musicale est signée Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui, Jérémy Guillon et Ludovic Asselot.
Fuck yeah.
C'était le légendaire Thunderstruck d'AC/DC dans Blockbuster sur France Inter. Et pour la petite histoire, Angus Young a eu l'idée de ce morceau après une mésaventure en avion, quand la foudre a frappé l'appareil, un peu comme François Hollande d'ailleurs, dans lequel il se trouvait rien que ça.
Blockbuster, Frédéric Sigrist.
Philippe Manœuvre, Wax Dedo, dans la grande histoire du hard rock, AC/DC, ça se situe où ?
Au milieu. Vous voyez, c'est le groupe charnière, c'est le groupe entre le hard rock et le métal, il y a AC/DC. Mais au début, personne n'était sûr. Le premier 45 tours d'AC/DC, il y a un sticker en France qui dit 100% punk. Bon, on le prend comme on veut. Mais en fait, c'était un groupe de deuxième génération. Ils avaient observé ce que faisaient les grands frères. D'ailleurs, leur grand frère était dans un groupe qui avait eu beaucoup de succès, qui s'appelait les Easy Beats.
Ouais.
Et qui avait fait Friday on My Mind, George Young. Il est devenu le producteur du groupe. Et il y a ce côté, on va aller plus loin. On va jouer plus fort. On va jouer plus vite. On va être plus dur. On est des gamins modernes. On est là, c'est la musique de l'époque. On va la faire. Et AC/DC, au début, ils se font littéralement les crocs en faisant la première partie, toutes les premières parties. En France, on découvre en première partie de Rainbow, le groupe des anciens Deep Purple. Aux États-Unis, je les vois en première partie de Johnny Winter. Quatre jours après, je vais voir un autre groupe. C'est encore AC/DC. Ils prennent tout.
Et le nom AC/DC, d'où il vient ?
Ah, alors ça, c'est...
c'est la légende. Sœur de...
Ouais, la légende veut que ça soit pris sur un aspirateur.
Voilà, il y a une doxa, il y a une légende. En fait, il y a quand même le groupe Sweet qui avait sorti en 74 un album sur lequel il y a un morceau qui s'appelle AC/DC. Et bon, est-ce que... C'est un album qui avait été numéro 1 en Australie. Ça paraît difficile à croire que des mauvais garçons comme les frères Young ou Bon Scott soient pas tombés sur cet album. Mais comme ils ont toujours décidé que c'était un aspirateur, c'était écrit AC/DC, on peut... il y a une doxa, il y a une légende.
Oui. Ils étaient à deux doigts de s'appeler Magimix, en fait.
Ouais, ça s'est joué. Seb, ça aurait été vachement moins mental. Mille fois moins, malheureusement.
Et la tenue d'Angus Young, cette tenue d'écolier,
c'est un défouloir. Lui, il dit que quand il met cette tenue, il devient le diablotin du groupe, que ça l'autorise, quand il l'enlève, à redevenir quelqu'un d'à peu près normal. Les AC/DC, oui, c'est les guerriers de la route ultime. Hein. Ils ont multiplié les tournées, ils ont rasié les États-Unis. Ils sont vraiment... C'était un groupe de travailleurs.
Et puis ils se sont fait connaître très très fort parce que justement en étant première partie la plupart du temps ils bouffaient la deuxième partie.
Et ouais.
Tout le monde disait bon bah même les groupes principaux au bout d'un moment refusaient qu'ils soient là parce qu'ils étaient là bon on n'a plus rien quoi. Les gens veulent voir AC/DC alors que à la base c'est nous, c'est quand même pas normal.
C'est un groupe qui correspond, voilà, des fans de rock extrêmement sympas. C'est le nouveau rock quand AC/DC a commencé. En Angleterre, ils ont commencé au Marquee Club et il y avait un fan un type qui est devenu instantanément fan. Il est venu à Rock et Folk nous dire, vous savez les mecs, il y a un nouveau groupe, AC/DC, vous allez voir, c'est tout ce qu'on. Et c'est typique des fans d'AC/DC, ils sont prosélytes, ils veulent répandre la bonne parole.
À propos de fans, on est allé voir les gens du dehors, hein, vous savez, ceux qui gagnent leur vie autrement qu'en faisant des émissions financées par le service public, pour leur demander ce qu'il leur restait ou ce qu'ils connaissaient d'AC/DC.
Le genre de musique qui est le hard rock me plaît énormément. Après AC/DC, c'est un vieux groupe. Forcément, il y a Highway to Hell qui est resté culte. Après, moi, je sais que je suis pas allé pousser plus loin sur leur album, et je devrais peut-être.
C'est vrai que c'est quelque chose qui vieillit pas ou qui vieillit bien. C'est intemporel, AC/DC.
C'est pas vraiment mon style. Ils ont un style de musique un peu trop fort, je dirais.
À part Thunderstruck, c'est peut-être la seule chanson que j'écoute d'eux. Hein, mais autrement, je suis pas non plus un... Je suis pas un grand fan.
J'ai acheté un ou deux disques AC/DC, il doit avoir 20 ans. J'étais pas très hard rock, mais ça c'était vraiment super bien.
Hard rock, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme groupe par exemple
Dans le hard rock, j'avais acheté des disques de Iron Maiden, parce qu'ils avaient des super belles pochettes. Hein.
Leur style de musique, c'est vraiment. Faut aimer quoi. En fait, le hard rock c'est tellement puissant que quand t'écoutes ça, pour moi ça me donne une espèce de pêche incroyable.
Et ce que je me rappelle du hard rock, c'est qu'à chaque fois ils avaient des slows très très jolis, très beaux, qu'on pouvait danser dans les soirées. Et ça, j'aimais beaucoup.
Et voilà,
le hard rock. T'es tombé sur des gros fans.
Il veut parler des
gros fans,
power hein. Ballades.
Oui, oui, c'est ça. Mais le hard rock, ça permet de pécho aussi de temps en temps.
De temps en temps, exactement.
Alors, je rappelle que vous pouvez tout l'été, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le faire. Vous n'aurez pas l'air ridicule. On a besoin de vos témoignages. Donc, n'hésitez pas à appeler. Je rappelle le numéro 01 56 40 30 20. Alors, on a vu un petit peu comment ACDC est perçu par le grand public, mais plus personnellement, Wax, Dedo, comment vous avez découvert ACDC? Comment vous l'avez appréhendé?
Moi, je l'ai découvert, c'est mon cousin qui m'a fait découvrir, c'était leur live au Atlantic Studio. Je ne sais plus quelle année c'était,
76.
Peut-être 76, quelque chose comme ça, qui est resté, je crois, mon live préféré de peut-être tous les groupes que je connais, en fait. C'est vraiment pour moi, il est incroyable, ce live, surtout quand on connaît l'histoire, comment ça s'est passé, etc. Et en fait, je me suis pris une claque de 4 mecs qui sont dans un studio. Il n'y a pas un pet de reverb ni un pet d'effet, c'est du rock pur et dur, et je me suis pris pleine poire, et je devais avoir 9 ans et voilà.
Et ça a été le point de départ de la passion pour le hard rock, ou il y avait déjà eu des précédents?
Je crois que 10 minutes après la fin d'écoute de ce live, il m'a fait écouter Nevermind, et là, c'était fini. Voilà.
Ah oui, voilà. Ouais. Il y avait une forme de lavage de cerveau.
Et pourtant, c'était très différent, mais je me suis dit, ah ouais, j'ai tellement de trucs à rattraper. Mais ouais, ACDC, ça a été l'un des points de départ. Ouais.
Dedo?
Et moi, un peu la même chose. Moi, c'est un pote, en fait, je devais avoir 10 ou 11 ans, qui avait fait une compile de titres qu'il aimait bien. Et dans cette compile-là, donc, il y avait principalement du hard rock. Et donc, il y avait Thunderstruck d'ACDC, et juste après, il y avait Painkiller de Judas Priest. Donc, l'association des deux m'a très vite fait aller vers la distorsion au maximum. Et c'est vrai que cette voix si particulière et ce côté brut, qui est presque du blues électrique au final, m'a tout de suite donné envie d'en écouter plus, et m'a fait donc tomber dans les premiers albums, qui ont été marquants pour toute une génération, la période Bon Scott. Qui pour moi est la meilleure période d'ACDC, même si effectivement c'est quelque part la plus courte, mais qui a été la plus marquante.
Oui, parce qu'il faut préciser que Bon Scott a eu un parcours tragique.
Ouais, qu'il a fait quoi, 2 ou 3 albums avant de mourir, justement.
Il en a fait six
en tout, d'accord.
Oui, parce qu'il y avait un live.
Ah oui, c'est vrai.
Blood, enfin, il y avait beaucoup. Ouais. Les débuts étaient difficiles. Il y avait 2 albums en Australie, en Europe. Enfin bref, mais en tout, il y a 6 albums. Et puis Bon Scott, c'était un garçon turbulent qui aimait bien faire la fête avec ses roadies jusqu'à l'aube. Et puis un jour, ils l'ont malheureusement oublié dans une voiture un matin, une R5, il faisait froid, il est mort de froid, il a eu une attaque dans une voiture, il est mort comme ça, quand ils sont revenus à 11h, il était mort, le pauvre. Donc Bon Scott, il a vécu, tous les gens qui l'ont rencontré racontent des histoires sublimes, c'était un garçon génial, c'était un pirate, un viking, c'était un chanteur, quoi, il y allait, il déchaînait, il connaissait les gens partout, que d'après Angus Young, quand il jouait la première fois à Amsterdam, il connaissait les marins, il connaissait le tatoueur, il connaissait le dealer, il connaissait tout le monde. Dans toutes les villes, il connaissait les gens qu'il fallait connaître, quoi, quand on est un groupe de rock. Et il était un peu plus âgé que les frères, et donc c'était vraiment le leader naturel du groupe. Je crois que sa mort, ça les a laissés, mais effarés. Et puis les fans ont dit, tiens, il y a un type dans le groupe Jordi qui pourrait être votre chanteur. Ils ont écouté la cassette et ça s'est fait tout naturellement.
Très rapidement d'ailleurs.
Très très rapidement.
Et d'ailleurs, je crois que Bon Scott, alors c'est peut-être une légende, vous me confirmez ou non, mais disait que Brian Johnson serait la seule personne capable de le concurrencer.
Ouais, alors est-ce que c'est apocryphe? Est-ce que c'est vrai?
C'est de la légende,
moi, ça me paraît légende. Légendaire.
Okay. Ça fait toujours partie.
Par contre, on dit que Bon Scott avait commencé à travailler sur des carnets où il notait des idées de titres, des idées de textes, et que ça a été récupéré par les frères Young après sa mort accidentelle et donné à Brian Johnson pour qu'il sache un peu comment avancer. Et c'est pour ça que l'album Back in Black est si génial, quoi. C'est qu'il y a encore un gros, enfin tous ces titres, c'est Bon Scott.
Ouais, il y a une identité
de Bon Scott qui n'est plus là. Il n'est même pas mentionné sur la pochette, il n'y a rien. Mais on est de retour en deuil.
Et c'est ce qui a donné beaucoup de mal justement à Brian Johnson, parce qu'il n'a pas été accepté par les fans tout de suite. Il y a une vraie période de latence où tout le monde était dans le regret total de Bon Scott, et il a eu
mais ça arrive souvent, hein, le deuxième Jean-Pierre dans Ma Sorcière Bien-Aimée, a été très très mal accepté aussi.
Ouais, je m'en souviens.
Voilà, Ron Wood.
Et pourtant, il s'appelait Dick aussi, oui. Malgré tout ça, donc c'est dire.
Non, mais c'est normal, c'est normal. Il y a vraiment, les gens avaient vraiment identifié ce groupe. Bon Scott, c'était un des premiers tatoués du rock. Hein. Le tatouage ouais. qui est devenu presque obligatoire. Ils ont des magnifiques tatouages, je le dis parce qu'on est à la radio. Mais Bon Scott, c'est le premier tatoué du rock. Avant, c'était les marins ou les tollards. Et après, ouais. Bon Scott, c'est les chanteurs de rock aussi.
Mais il avait un vrai look de tollard.
Ah oui, total.
Vous écoutez France Inter, il est 11h31 et c'est l'heure des chiffres. C'est une petite tradition qu'on a installée depuis la saison dernière, le questionnaire Redman. C'est-à-dire que je vous donne des chiffres et vous me dites à quoi ça correspond. C'est toujours un moment de gênance absolue pour les invités. Donc 15, est-ce que c'est le nombre d'albums studio qu'ACDC a sorti, le nombre de micros que Brian Johnson a détruit pendant l'enregistrement de Back in Black à la force de sa voix, ou le nombre de costumes de scène essayés par Angus Young avant d'opter pour l'université uniforme d'écolière de sa sœur.
Je dirais la une.
Ouais, les albums aussi. Parce que les costumes, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de costumes apparemment avant d'adopter les colliers. Il cherchait une sorte de costume à avoir.
Il a essayé en gorille.
En gorille, j'aurais trouvé ça très intéressant.
Mais un peu chaud peut-être.
Peut-être,
oui, le rock qui dégage.
En Spider-Man aussi. Mais alors là, il y avait une vraie question de droit.
Ouais, là je pense aussi que ça aurait coûté très cher. Et pourtant, ça aurait été anticipé la grosse vague Marvel, donc ça aurait peut-être été bien vu.
Superman également. Et non, effectivement, vous avez donné la bonne réponse, c'est le nombre d'albums studio qu'ACDC a sorti. Si je vous dis le chiffre 13, c'est le nombre de fois où la cloche sonne en hommage à Bon Scott dans la chanson Hell's Bells, ou en millions ce qu'a touché Gérard Huerta, designer du logo ACDC sur la vente des t-shirts.
Designer de Time Magazine aussi d'ailleurs.
Oui.
Est-ce qu'il aurait pris 13 millions ? Eh ben, moi j'ai envie de croire à cette somme faramineuse.
Eh bien non, oh, et le pire c'est qu'il n'a rien touché. Voilà, ah ouais, il n'avait pas déposé, donc il n'a rien touché du tout sur la création du logo. C'est le nombre de fois où la cloche sonne en hommage à Bon Scott.
Oh là là, c'est magnifique. Bien.
Je pense que c'est la plus grosse dépression de l'univers qu'a dû avoir cette personne.
Ouais, je pense, oui. Oui, mais même là, d'ailleurs, quand on en reparle,
il y a aussi le jeune homme qui avait dessiné la langue des Stones. Lui a donné 200 livres, Royal au bar.
Oh là là,
et quand même, les Stones sont revenus vers lui en 96. Ils lui ont envoyé un chèque bonus de 20 000 euros pour dire merci. Parce
20 000, quelle génération. Quand même. Mick, vraiment, c'est le cœur sur la main. Quoi.
Le chiffre 5, c'est en dizaines de millions le nombre de disques de Back in Black vendus dans le monde, le nombre de bouteilles d'oxygène qu'Angus Young utilise à chaque concert, ou le nombre de frères que comportait la fratrie Young.
C'est la une.
Ouais, parce que l'oxygène, c'est plus quelque chose qu'utilise Manson sur scène.
Oui.
Et effectivement, 5 millions, je crois que c'est le chiffre adéquat.
Eh bien oui, c'est en dizaines de millions le nombre de disques de Back to Black vendus dans le monde. C'est énorme.
C'est énorme, c'est le disque rock qui s'est le plus vendu. Après, il y a aussi un Pink Floyd, de Dark Side of the Moon, qui est pas très loin, il y a des choses comme ça. Mais ce disque de AC/DC, il symbolise le rock pour toute la planète. Si tu veux écouter du rock, tu mets Back in Black, normalement, t'es pas déçu.
Rétrospectivement, c'est quand même fou de se dire que il y a Brian Johnson qui débarque dans le groupe et qui fait l'album le plus vendu de l'histoire du rock.
C'est une manière de
sachant que l'album d'avant
c'est What to Hell, de bien rentrer. Bah, Dickinson a eu à peu près la même chose quand il est arrivé sur Maiden, ça s'est bien passé tout de suite
Hein. Bon bah écoutez, vous avez super bien répondu, donc vous avez mérité une petite surprise, une surprise à la France Inter. On va vous faire une petite pause avec de la chanson française. Place à Arthur H qui a sorti un tout nouvel album cette année, Amour Chien Fou, sur le label All Points, et tout de suite il chante Reine de Cœur.
Déjà oublié comment ne plus t'aimer. Comment stopper la machine infernale. J'ai déjà oublié comment ne plus t'embrasser. Elle m'hypnotise, ma déesse adorée. Chérie, chérie, laisse-moi te réchauffer avec les mots troublés de ton chenapan violent. Chérie, chérie, laisse-moi m'aventurer dans la beauté cachée de ma reine de cœur. J'ai déverrouillé le cadenas givré. J'ai guetté ton arrêt. arriver. De l'autre côté de ce pays éphémère, j'ai dérobé des baisers de lumière. Chérie, chérie, laisse-moi te révolutionner en orbite tout autour de moi. Chérie, chérie, laisse-moi t'idolâtrer, primitif apprivoisé, ma reine de cœur, ma reine de cœur, ma reine de cœur, ma reine de cœur, ma reine de cœur.
C'était Reine de cœur d'Arthur H. Et il sera en festival tout l'été. Le 6 juillet à Ramatuelle pour le festival Ramatuelle Monte le son pour la planète dans le Var. Et le 7 juillet à Passy pour le OH2 Festival en Haute-Savoie.
Maman, il faut absolument que tu me donnes 50 tomans.
Ah oui? Mais pourquoi faire?
Golnaz m'a dit qu'il y a des mecs qui vendent des cassettes sur l'avenue Gandhi.
Et des cassettes des Bee Gees?
Mais maman, c'est nul, les Bee Gees, quoi.
Stevie Wonder.
Julio Iglesias.
Pink Floyd.
Michael Jackson.
Roger Love. Werner Hong. Carte à jouer.
Iron Maiden.
Ah. Hey, c'est combien pour ça?
100 tomans.
50.
60.
50.
60.
50.
50.
Ouf.
I'm the master of the monsters. Oh, 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 oh.
C'était bien évidemment un extrait de Persepolis. Donc là, on est en train de passer progressivement de la notion du hard rock à celle peut-être plus pointue de métal. Alors Dedo, je sais que vous êtes un grand fan de métal. Est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui se dégage dans la discographie qui vous plaît particulièrement?
De tout ce que j'aime, moi en métal, mon groupe préféré restera à tout jamais Pantera, dont on a perdu... deux membres, dont un légendaire qui a été Dimebag Darrell il y a quelques années, qui a été tué sur scène dans des circonstances assez horribles, et Vinnie Paul, le batteur, qui est mort en plein Hellfest. Donc, et dans cette chanson-là, dans ce groupe-là, il y a tellement de titres à prendre que c'est jamais évident entre Mouth for War, Walk.
Et est-ce qu'il y en aurait un en particulier, que par exemple vous m'auriez communiqué avant l'émission,
mais j'ai envie
créerait une spontanéité absolument incroyable.
Bien entendu, mais j'ai envie d'entendre dire le titre de ton accent si subtil.
Alors tout de suite, on commence à être baissant. Alors non, je vais faire on va écouter un extrait de Pantera.
Ah.
Alors, le rapport à Pantera, en fait, à quel moment vous êtes tombé dans la marmite Pantera?
Alors, la marmite Pantera, elle est arrivée assez rapidement après le moment où j'ai découvert le métal un peu plus dur, c'est-à-dire que je suis passé, quand j'avais 15-16 ans, sur la période death metal, qui était le Floride, avec un groupe qui s'appelle Morbid Angel pour les initiés, et particulièrement un album qui s'appelle Abomination of Desolation. Je parle de ça sur France Inter.
C'est que des gens joyeux,
que des gens joyeux.
Très content que t'en parles.
Et Pantera est un groupe qu'on peut, je pense, classer dans ce qu'on appelle le power metal, vu qu'il y a plus de 789 variétés différentes dans
ou
le metal.
Le groove metal, d'ailleurs.
Entre autres, effectivement.
Et ou le funk metal, je sais pas si ça existe, mais j'avais envie d'inventer un truc.
C'est moi. Le funk metal, c'était Living Color, ça existait.
Ça existait. Voilà, évidemment, mais faut pas me sous-estimer. Moi, j'étais sûr que ça existait.
Infectious Groove aussi.
Aussi, ouais, effectivement, avec Psycho.
Moi, je suis plutôt Venom.
Mais c'est une très bonne référence aussi. Ouais. Et donc, Vulgar Display of Power, qui est pour moi le meilleur album de Pantera, a été le premier basculement après Cowboys from Hell, où on est devenu dans une période un peu plus dure, sachant que Pantera a eu une période glam. Oui. Glam metal, donc tout de suite le glam c'était quelque chose un peu plus estampillé, voix suraiguë avec des costumes très flashy, comme ont pu avoir les Guns et tout ça.
Et Alice Cooper qui a lancé.
Et Alice Cooper, bien sûr. Alors Cooper, si on doit en parler de Cooper, c'est pour moi le chantre total du métal qui a inspiré tellement de gens. Parce que ça a été le premier à utiliser justement un alter ego, un peu comme Bowie, comme voilà. Plein d'autres ensuite.
Mais oui, Benson, mais moi je suis Alice Cooper sur scène et Vincent Furmier, quand je redescends, je joue au golf, je paye mes impôts, j'habite à Phoenix, tout va bien. Et quand il remonte sur scène, il devient le killer, il interprète des serial killers, des guillotinés, il y a des araignées géantes.
Et c'est ça.
Donc il propose un espèce de Barnum du gothique de l'horreur.
Exactement, ça a été le premier à lancer ce show de cirque Pinder qu'ont pu avoir beaucoup, beaucoup de groupes par la suite.
Après,
comme Rammstein.
Kiss.
Et nous, en France, on a eu Mylène Farmer.
Et alors, je me souviens d'une époque où on insultait Kiss en disant c'est une honte, ils ont fait des t-shirts marqués Kiss. Et c'est eux qui ont inventé le merchandising. Et les gens disaient, mais est-ce qu'on fait un groupe de rock pour vendre des t-shirts? C'est scandaleux. Et c'est Kiss qui a inventé ça. Qui a inventé toute cette idée du merchandising qui fait que le logo des groupes est devenu.
Des marques
d'une célébrité incroyable. Des groupes comme Killing Joke vivent sur les ventes de leurs t-shirts, de leurs bonnets. Des groupes comme Suicidal, les Misfits. Enfin, le logo est devenu une chose incontournable du métal.
C'est vrai, c'est devenu des marques estampillées au final. Quoi. Et donc Pantera, pour moi, restera à jamais la référence ultime du métal.
Alors depuis le début de cette émission, on essaie de parler de hard et de heavy metal en sortant des clichés. J'espère qu'on y arrive, hein, même si c'est compliqué. Mais notre pays ne serait pas ce qu'il est sans une bonne polémique pleine de raccourcis.
Allez-y.
Et d'approximations. C'est le moment préféré d'Éric Brunet, d'Éric Zemmour et d'Éric Ciotti. C'est le moment « J'aime pas ». J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. On va écouter un montage regroupant un certain nombre de réactions entourant la programmation du Hellfest, hein, ce grand festival de métal. Et je crois qu'une chose est sûre, c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas.
À Clisson, cité tranquille, proche de la belle ville de Nantes, on annonce l'arrivée du festival Hellfest du 18 au 20 juin. C'est aujourd'hui une manifestation importante qui rassemble un nombreux public amateurs de musique rock, plus particulièrement du genre métal. Des affiches illustrant la mythologie associée à cette musique susciteraient un certain émoi. Et le bruit court selon lequel le doux pays du Puy du Fou deviendrait le gouffre à Lucifer.
Cette année, dans la programmation des groupes du festival, figure entre autres le groupe Marduk, dont je me permets de vous citer une phrase tirée d'une de leurs chansons. Je cite « Pisse sur le Christ et tue le prêtre ».
Le Hellfest.
J'aime pas. Quand j'entends les paroles choquantes, violentes, d'incitation à la violence de certains groupes, je peux pas vous dire que j'aime.
Vous êtes déjà allé au Hellfest ?
Non. Ce que je n'aime pas.
Alors là, on vient de constater une grande ouverture d'esprit de la part de nos élus et vraisemblablement de certains habitants de Clisson.
Donc, il y avait le curé de Clisson hein, qui avait été instrumental, qui avait fait un site internet « Vivre heureux à Clisson sans la Hellfest » au tout début. Ça a été très chaud, il a fallu... C'est à partir de 2009-2010, le festival s'est solidifié, a étendu des racines très populaires avec le public breton. Mais c'est quand même un énorme festival, c'est une trouvaille incroyable d'un gamin de 27 ans qui s'appelait Ben Barbeau, qui a monté ce festival tout seul avec l'aide d'une bière, qui lui a fait confiance. Il a fait venir tout le monde du métal dans cette plaine de Clisson, à non loin du Muscadet, des vignobles du Muscadet. Enfin, c'est quelque chose de formidable. C'est une expérience.
C'est un festival convivial. Il y a
plein de gens. Que les Américains ont Burning Man, nous, on a la Hellfest. Et c'est un voyage un peu initiatique. On part avec ses copains, on a le sac à dos, on va aller au camping, on va aller à la tente. Je vois des mecs dans le train qui disent « Moi, je veux pas que ma femme m'appelle, hein, rien pendant 3 jours. On va être incommunicado et ils vivent le rock. » Pendant un week-end, ils s'éclatent, ils s'habillent en cuir noir, ils mettent des cornes, des casques de vikings. Il y a un côté un peu déguisement, je montre mes tatouages, on boit beaucoup de bière. C'est vrai, et il y a une ambiance formidable. Je trouve ça peaceful. Moi, j'ai l'impression, enfin, je vois pas de différence.
Les gens attendent ça toute l'année, en fait. C'est vraiment le pèlerinage.
Voilà.
Tout le monde se retrouve et vraiment la meilleure ambiance possible, quoi.
C'est ça, il y a un vrai côté festif.
Et finalement, ce qui les arrête, c'est l'imagerie. C'est l'imagerie qu'il y a autour du
métal.
Mais oui, mais histoire bégaye. Tant mieux. Elvis déjà était déjà considéré comme quelque part un adepte de Satan avec ses dents étranges pour l'époque. Donc il y a toujours eu ce côté sulfureux.
C'est d'ailleurs une polémique qu'on retrouve aussi dans le jeu vidéo aussi. Hein. C'est-à-dire que ça va créer des déviants qui vont se mettre à tuer des gens.
Et puis c'est les gens ne comprennent pas que ça fait partie du folklore et ils ne voient à aucun moment ce truc-là. Ils voient juste quelque chose de très premier degré parce que ces gens qui ont ces réactions-là sont eux-mêmes très premier degré. Donc c'est pas très grave d'avoir ces réactions-là.
Donc au contraire même, que ces gens-là, au scandale,
ça fait la différence entre les hommes et les petits garçons, voilà, c'est tout, ils aiment pas, et ben nous on leur dit « fuck you people », c'est pas fait à la motorhead.
Mais c'est très très
voilà,
bien.
C'est pas grave.
Mais c'est très très bien, je propose qu'on reste là-dessus, on va écouter de nouveau AC/DC. Dans le hard et dans le métal, il y a aussi cette dimension du live, c'est-à-dire que tout est pratiqué comme ça, devant les gens, en plein concert, on joue de la guitare, c'est pas de la musique réarrangée par ordinateur, on trafique pas les voix, c'est les voix qui se trafiquent toutes seules. Donc il y a quand même cette dimension un petit peu presque vintage roots dans le rock sur scène.
Et puis même magique au final, parce que c'est vrai que de voir des guitares héros sortir des notes face à toi avec une telle dextérité, une telle rapidité par moment, il y a quelque chose de très impressionnant qui l'est beaucoup plus que dans certaines musiques où on va vocodériser un peu tout. Là, il y a quelque chose qui reste vraiment brut et beau à voir et l'énergie qui se transmet, elle est instantanée. Et ça, il n'y a pas beaucoup de musiques qui le transmettent à ce point-là.
Et d'ailleurs, même au niveau du public, il y a presque une dimension, alors c'est un mot un peu un grand mot, mais un peu prolétaire dans l'amour du métal. C'est-à-dire que c'est souvent des gens qui bossent un petit peu.
Ça vient de toutes les couches de la société. Moi, j'ai vu vraiment des PDG très métal.
C'est vrai?
Vraiment, oui. Alors évidemment, vous avez les coursiers moto des années 80 qui étaient très AC/DC. Et on a beaucoup essayé de dire, voilà, c'est la musique des prolétaires, etc. Mais aujourd'hui, ça s'est étendu. Il y a absolument les couches de la société qui sont présentées dans le métal. Hein. Vous avez des chirurgiens.
À la base, c'était la musique de la rue.
Ouais.
Mais maintenant, c'est vrai que c'est devenu. Enfin, quand on va au Hellfest, effectivement, c'est le rendez-vous de tout le monde. Enfin, comme tu dis, il y a des dentistes, il y a tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment devenu un énorme mélange. En fait, le métal aujourd'hui, vu que c'est plus du tout une musique qui est écoutée comme à l'époque. Par un grand nombre de gens, du coup ça devient quelque chose, c'est plus de la musique d'initié et ces gens-là ont grandi, ont eu des métiers et...
Donc on peut espérer une, je sais pas s'il faut l'espérer d'ailleurs, mais une victoire de la musique métal en France?
Ça serait vraiment bien.
Oui, ça serait Gojira qui l'aurait tous parce qu'on a un groupe de métal en France qui fait
incroyable.
L'admiration internationale, qui fait la première partie de Metallica, qui sont un peu les cadors du métal, hein, la New Wave of British Heavy Metal, c'était bien, mais Metallica, eux tout seuls, ils ont représenté l'Amérique dans ce grand mouvement de naissance du métal, et ils ont signalé à toute la planète que Gojira, ça leur semblait des clients sérieux, c'est des Français, des Français de Bordeaux.
Parfait. Alors, AC/DC, c'est très bien, mais on l'a vu, hein, le hard, ça va beaucoup plus loin que tout ça. Et il y a des tas de groupes qui ont écrit des chefs-d'œuvre. La question, c'est est-ce que vous saurez les reconnaître?
Ah, ça y est,
les quiz. Je crois qu'on a perdu devant Philippe Hanoff.
Mais non, arrêtez.
C'est le blind test made in blockbuster. Alors, on va vous passer quelques morceaux de hard et de métal totalement cultes. Il me faut le nom du morceau et le groupe qui le chante.
Ouais. Bah, c'est Paranoid par Black Sabbath.
Voilà.
Voilà.
En même temps,
bah oui, bah c'est en 69.
On va
vous voulez le numéro du 45 tours en vertigo?
Allez-y, allez-y.
Ozzy, qui est aussi une légende totale du métal. Au
voilà, alors c'est un groupe, c'est Ozzy Osbourne, mais c'est aussi le guitariste Tony Iommi, qui sûr, avait eu les trois doigts coupés, le bout de trois doigts coupés dans une aciérie, qui a inventé un moyen de jouer de la guitare avec les doigts coupés, qui est un peu le Django Reinhardt du métal.
Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a des gens qui ont Wikipédia, et moi, j'ai Philippe Manœuvre.
Mais je peux aussi vous dire que Bill Ward était à la batterie, et Geezer Butler à la basse.
Morceau suivant.
Metallica, oh là là.
Eh, quand même, on a, j'ai pas des escrocs autour de la table, hein, des vrais connaisseurs.
C'est fou parce que ce morceau, on l'a tellement, tellement entendu que on commence un tout petit peu à en avoir marre, je pense.
ouais, moi je me fais des cures.
C'est vrai? Enfin,
ouais, des cures où je l'écoute pas pendant genre 6 mois, et puis après je réécoute, je me dis, mais le Black Album est vraiment incroyable.
Ah ouais, le Black Album. C'est pour moi d'ailleurs le dernier vrai bon album de Metallica. Après, ça a été une sorte de descente aux enfers.
Et ben, bon, et je te
avec
dis,
les load, reload, surload, reload.
Et le dernier est bien.
Morceau suivant.
Alors là, on est parti avec Led Zeppelin, Immigrant Song. Oui. Ouais. Donc là, on est face à Robert Plant aux vocaux, Jimmy Page à la guitare, John Paul Jones à la basse et John Bonham à la batterie.
Très bien vu. Et une version qui a été reprise par Trent Reznor et Atticus Ross, qui est et très très bonne.
Et une version de Infectious Groove aussi.
Aussi, exactement.
Et qu'on retrouve également dans Thor Ragnarok.
Oui, tout à fait.
Un des derniers Marvel.
C'est un titre qui a été repris par des tas de génériques d'émissions de télé.
Certaines très mauvaises.
Oui. Ah oui, ouais. Je pense qu'on a tous pensé à la même. Morceau. Ah, ça pourrait être King Diamond, mais je crois pas.
Non.
Ça ressemble à du Venom.
Slayer.
On est dans du Slayer.
Ah, ouais, Slayer. Ouais,
Slayer. Ouais, c'est laquelle
oui. Angel of Death.
Ah putain, ouais, bah, en plein milieu.
On ne peut pas avoir le titre.
Bon, écoutez, je trouve que c'était quand même très honorable. Hein, vraiment, ouais. Moi, j'aurais pas réussi à répondre comme vous. Hein. Donc, cette fois-ci, on va passer à du rock britannique, les Arctic Monkeys.
Oui.
Et on écoute Four Out of Five, un tout nouveau titre qui vient de sortir sur leur dernier album Tranquility Base Hotel and Casino. Way, start your free trial today. Come on in the water's lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old grey whistle test lights. Take easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. You know the Exodus, it's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof, it was well reviewed. 4 stars out of 5, and that's unheard of. Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okay, cookie with the opposite sex. The things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. It's all getting gentrified. The information at your ratio is the place.
C'était Four Out of Five des Anglais Arctic Monkeys. Ils seront en concert à Lyon cet été, le 10 juillet, pour les Nuits de Fourvière. Alors, on arrive à la fin de cette émission. J'aurais encore eu des tonnes de questions à poser. Mais déjà, j'aimerais remercier Philippe Manœuvre, Wax, vraiment, merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à toi. Je suis ravi parce que moi, c'est pas forcément ma spécialité, le métal, mais j'avais envie.
Mais vous en êtes très bien sorti, Fred.
De rendre hommage à ce jour-là qui me met la pêche dès le matin. Et alors, Dedo, on va vous retrouver le 13, 14 et 15 juillet à Avignon avec votre groupe Princesse Leia, je crois.
Tout à fait. Princesse Leia, qui est un projet pas évident à décrire parce que très hybride, mais qui est une sorte de live, donc un vrai live avec moi au chant, Antoine Chomsky à la guitare, Cléo Bigontina à la basse et Xavier Goduel à la batterie. Et c'est une sorte de pièce de théâtre, à la fois live et à la fois comédie musicale. C'est toute proportion gardée, vraiment, parce que je les adule. On essaye de faire une sorte de tout petit Spinal Tap en live.
D'accord, moi, je les ai vus, c'était génial.
On va écouter un extrait. Ouais. Et voilà, Princesse Leia, donc les 13, 14 et 15 à Avignon. Alors quant à nous, on se retrouve dans Blockbuster demain pour des tombes piégées, des énigmes mortelles et une héroïne culte. Demain, on parlera de Tomb Raider et des femmes dans le jeu vidéo. Mais je suis aux côtés de Dorothée Barba.
Bonjour Frédéric. Dorothée. C'est génial ce qu'on vient d'entendre là.
C'est énorme.
C'est du Jane revisité, quoi.
Exactement.
Canon. Alors là, on arrive à un moment où la transition va pas être évidente.
Non, voilà, faut y aller.
Allez, on n'a pas peur. C'est le débat de midi qui démarre dans 5 minutes et on parlera des EHPAD tout à l'heure. Nos vieux sont-ils maltraités dans les maisons de retraite? On attend vos témoignages, vos réactions, vos questions. On a notamment une salariée d'un EHPAD dans le Jura qui s'est beaucoup battue pour les conditions de travail, pour obtenir des moyens. Et il y a beaucoup à dire sur la manière dont la société française s'occupe de ses aînés.
D'autant que les EHPAD rapportent énormément d'argent aux actionnaires.
Voilà, c'est un secteur lucratif.
Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short.